Pascal Boniface, bonjour.
Bonjour.
Dans Géopolitique du coronavirus, dès les premières lignes de l'introduction, vous écrivez qu'il y a bien un moment Covid-19 sur le plan géopolitique. Alors vous le situez entre une révolution historique et une révolution stratégique.
Oui, effectivement, on peut dire qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Non pas que tout sera différent, mais ce moment est venu cristalliser des tendances structurelles géopolitiques extrêmement fortes qui étaient déjà naissantes, que l'on pouvait déjà voir, constater, mais qui semblent s'être cristallisées, s'être enracinées, s'être amplifiées du fait de la crise du Covid-19.
Notamment la compétition entre la Chine et les États-Unis?
Oui, effectivement, c'est certainement ce qui est apparu le plus nettement. On savait que cette rivalité existait déjà entre ces deux grands géants, ces deux premiers PIB mondiaux, qu'il y a bien sûr une compétition économique, mais également une compétition stratégique. Et on peut dire que la crise du Covid-19 est venue la rendre tellement évidente, tellement éclatante, que plus personne ne peut l'ignorer, et qu'elle s'est renforcée durant la crise, puisque pour échapper aux critiques sur la gestion pour le moins chaotique qu'il avait de la pandémie aux États-Unis, Donald Trump a choisi un bouc émissaire, la Chine, et donc il a fait pour la campagne électorale le choix de prendre la Chine comme punching ball, comme adversaire numéro un, et bien sûr cela va laisser des traces, mais on sait aussi que la compétition, c'est un peu la compétition entre ces deux pays pour la suprématie mondiale, et que du côté chinois, on a voulu présenter un modèle qui réussissait, un modèle qui aurait été plus performant que le modèle américain pour juguler la pandémie.
Alors justement, oui, vous dites le roi occidental est nu. Est-ce à dire que c'est le modèle chinois qui va s'imposer?
Non, parce qu'il y a un modèle européen qui est différent. Et si les Européens ont mis quelque temps à réagir et à réagir de façon coordonnée, dans la deuxième partie de la crise, ils ont su être plus efficaces, plus efficients. D'une part, en présentant un plan d'aide à l'Afrique qui n'a pas laissé à la Chine le monopole de ce type de plan et venir un peu contrecarrer ce qu'on a appelé la diplomatie du masque mis en place par Pékin. Mais aussi en se ressaisissant, en brisant quelques tabous européens, en faisant un emprunt géant pour aider notamment les pays du Sud qui étaient en très grande difficulté. Et il faudra qu'on vérifie par la suite, mais il est possible que la crise du Covid-19 a été un moment important dans la construction européenne et que, alors que l'on espère pour certains depuis longtemps de voir l'Union européenne devenir un acteur géopolitique global, peut-être que la crise du Covid-19 a été un moment clé dans cette transformation entre un guichet auquel tout le monde s'adresse et un acteur global plus cohérent et plus important, plus efficient sur la scène internationale.
Vous parlez d'une gestion par l'Europe qui n'a été ni honteuse ni glorieuse, mais face à ce duel entre les États-Unis et la Chine, vous dites que l'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans ce conflit qui n'est pas le sien.
Non, effectivement, il y a des reproches que l'Europe peut faire à la Chine sur le domaine commercial. Elle lui a également reproché son manque de transparence initiale dans la crise, dans la gestion de la crise du Covid-19, mais la question de la suprématie mondiale qui nourrit la rivalité entre Washington et Pékin n'est pas le problème de l'Europe et nous n'avons pas à suivre aveuglément les États-Unis dans leur demande de solidarité par rapport à la Chine, surtout que depuis maintenant bien près de 4 ans, les États-Unis ne nous ont pas vraiment habitués à nous traiter comme des partenaires, comme des alliés. Et donc, il est pour le moins bizarre de voir que Donald Trump demande que les pays européens le suivent sans barguigner et sans hésiter dans le duel qu'il veut mener à la Chine, alors qu'il ne les écoute pas, qu'il ne les consulte pas et qu'il les a plutôt traités comme des vassaux que comme des alliés jusqu'ici.
Oui, vous dites qu'il ne faut pas devenir l'aide de camp d'un général qui nous maltraite dans un conflit où nous n'avons rien à gagner. Donald Trump prend des décisions politiques pour avant tout satisfaire son électorat, donc à très court terme, puisque l'élection est le 3 novembre. Et Xi Jinping, lui, prendrait des décisions pour entrer dans l'histoire ?
Oui, effectivement, l'objectif affiché de la Chine et tout particulièrement de son numéro un, Xi Jinping, est que la Chine retrouve la place de leader mondial, de puissance numéro un qu'elle avait il y a 2 siècles et qu'elle a perdu en grande partie du fait de l'incurie des dirigeants chinois. Et donc c'est un objectif qu'il ne verra peut-être pas comme président, mais qu'il veut voir aboutir au cours de la prochaine génération. Et effectivement, on voit bien que les deux principaux dirigeants du monde n'ont pas la même perspective temporelle. Xi Jinping joue l'histoire, joue le temps long. Donald Trump est toujours dans le temps court, dans l'immédiat. Il est obsédé par sa réélection et il peut parfois faire des actions qui sont dommageables et préjudiciables pour les États-Unis à la seule condition qu'elle puisse lui bénéficier personnellement en tant que candidat et en tant que président.
Faut-il s'attendre à ce que la rivalité USA-Chine ne dégénère ? Vous rappelez ce concept d'un géostratège américain, Graham Allison, le piège de Thucydide ?
Oui, effectivement, c'est une théorie qui est de plus en plus étudiée et commentée aux États-Unis. Alors, que vient faire l'historien des guerres du Péloponnèse dans le duel que se livrent Pékin et Washington ? C'est très simple. Selon Graham Allison, et du temps de Thucydide, eh bien, la Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes, et c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans une guerre contre sa cité rivale, mais qui a entraîné les deux villes, finalement, dans le déclin. Et donc, c'est un peu l'éternel problème. Lorsque la puissance numéro 1 est concurrencée ou rattrapée par la puissance numéro 2, est-ce qu'elle peut l'accepter ou est-ce qu'elle fait tout pour l'en empêcher? Simplement, très souvent, il n'est pas possible d'empêcher l'ascension de la puissance rivale, de la puissance numéro 2, et ce qui est fait pour le faire vient plutôt précipiter la chute de la puissance qui était auparavant la puissance dominante.
Et ce qu'on retiendra de cette crise du coronavirus, c'est que pour la première fois depuis 1945, les États-Unis n'ont joué aucun rôle dans la gestion de cette crise mondiale quand même.
Effectivement, c'est très frappant, c'est que c'est bien une grande première. On était habitué à voir les États-Unis qui, d'une façon ou d'une autre, prenaient le leadership d'une gestion de la crise. Mais là, non seulement ils n'ont pas pris le leadership, mais ils n'ont pas voulu s'occuper de sa gestion. On pourrait même dire, de façon peut-être exagérée, que Donald Trump n'a même pas voulu s'occuper de la gestion du Covid-19 sur le territoire américain. Et donc, on voit qu'il y a à la fois l'affirmation de la part de Donald Trump de « America first », mais c'est plutôt « America alone ». Les États-Unis sont très isolés du fait de la politique de Trump. Et là, effectivement, alors qu'elle reste, bien sûr, le premier PIB mondial, qu'elle reste la première puissance stratégique mondiale, eh bien, les États-Unis ont joué, finalement, les absents, n'ont pas participé à la gestion de la crise, se sont même retirés de l'Organisation mondiale de la santé, qui est au premier rang pour gérer ce type de pandémie. Donc, il y a une rétractation globale des États-Unis sur leur propre territoire.
Et le retrait de l'OMS, par exemple, c'est un boulevard offert à la Chine. Est-ce que le 3 novembre, si c'est Joe Biden qui est élu, est-ce que ça changera quelque chose ?
Cela changera quelque chose, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les États-Unis adoptent une politique multilatéraliste à l'européenne. Parce que finalement, l'unilatéraliste est un peu dans l'ADN stratégique des États-Unis. Obama, bien sûr, et Bill Clinton auparavant avaient des attitudes moins unilatéralistes que n'ont eu George Bush et Donald Trump, mais ils ont également fait des actions politiques. C'est par exemple sous Obama que la BNP a été condamnée à 9 milliards d'amendes parce qu'elle avait commercé avec le Soudan. Et donc la législation extraterritoriale américaine qui pose tant de problèmes n'est pas née avec Donald Trump, elle lui est antérieure. De même que Bill Clinton avait pu déclarer en son temps que les États-Unis étaient la seule nation indispensable. On peut penser que si Biden est élu, il sera moins grossier, moins brutal, moins caricatural que Donald Trump. L'inverse d'ailleurs serait difficile, mais néanmoins, il voudra quand même toujours imposer à sa manière, avec plus de douceur, avec peut-être plus de subtilité, il voudra quand même imposer l'impérium américain.
Par contre, est-ce qu'une réélection de Donald Trump serait le signe de la mort du multilatéralisme ?
Alors effectivement, il est déjà mis à mal puisque les États-Unis, au cours de son premier mandat, se sont retirés de l'UNESCO, de l'accord de Paris sur le climat, plus récemment de l'OMS, bloquent le fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé, se sont retirés de traités de désarmement, ont abandonné tout projet multilatéral pour le Proche-Orient. Et on peut dire que s'il devait faire un deuxième mandat, le travail de démolition des institutions multilatérales auxquelles Donald Trump se livre depuis qu'il est élu prendrait encore un peu plus d'ampleur parce que plus rien ne le retiendrait et que la reconstruction après 2024 sera encore plus difficile qu'elle ne le serait en 2020.
Un dernier constat concernant cette crise, c'est que finalement la situation, en tous les cas pour le moment, a été parfois beaucoup plus dramatique dans les pays occidentaux que dans des pays du Sud. Vous écrivez que les Occidentaux ont péché par orgueil ?
Oui, effectivement. Lorsque la crise du Covid-19 a éclaté, qu'a-t-on dit en Europe ? Que ça ne pouvait pas arriver chez nous, parce que les pandémies, les grandes pandémies, c'est en Asie, c'est en Afrique, mais on ne peut pas en souffrir. Et début juillet, on voit bien que finalement, le nombre de morts dans les pays européens est beaucoup plus important que dans les pays africains. Les pays africains étaient peut-être plus habitués à lutter contre ce type de pandémie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les pays occidentaux ont péché par orgueil en pensant qu'ils étaient exonérés de ce type de menace. Et qu'on a vu les images quand même de fosses communes à New York. On est habitué aux fosses communes lorsque c'est Harare ou Port-au-Prince. À New York, c'était beaucoup plus choquant. Et donc là, on peut dire que les Occidentaux qui pensent être au-dessus de la mêlée, qui pensent toujours pouvoir dominer le monde, là, ont quand même eu un choc psychologique assez important. Ça a été une sorte de juin 40 sanitaire pour les Occidentaux.
Et pourtant, il y avait eu des alertes. Vous faites part des rapports en France, par exemple, qui mettaient en alerte contre un risque pandémique. Pourquoi rien n'a-t-il été prévu ?
C'est quand même la grande question, parce que les rapports se sont entassés pour mettre en garde les dirigeants des différents gouvernements qui se sont suivis contre le risque d'une pandémie qui pourrait bloquer le pays. Le risque paraissait trop extrême, un peu comme si on avait mis cela dans les rapports juste pour colorier un peu le paysage et pour multiplier la possibilité de scénario. Et effectivement, quand c'est réellement survenu, nous avons été pris au dépourvu. Et là, il y a certainement une réflexion à mener sur la façon dont on fait de la prospective et sur la façon dont on prend en compte les risques lorsqu'ils sont mis en avant par les différents services.
Merci Pascal Boniface.
Merci à vous.